Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groux, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, problème politique ou centralisme. L'histoire du Canada français est toute pleine de conjonctures critiques. S'en est-il jamais présenté pour lui d'aussi grave que celle de ce dernier demi-siècle? Atteint dans ses forces vives par une révolution économique et sociale, fallait-il qu'il fût en même temps victime d'une révolution politique? Révolution, mot qui convient à ce que l'on peut appeler au Canada la menace grandissante du centralisme. Entendons par là la persistance du gouvernement central à renverser en définitive l'état de choses établi en 1867. Tentative opiniâtre de se subordonner les provinces, de gruger leur autonomie, jusqu'à n'avoir plus devant soi que des états serfs, ombres caduques de leur ancienne indépendance. La tentative remonte assez loin. On la peut retracer à la genèse même de la Fédération, en cette volonté d'un bon nombre de pairs de constituer un état central fort, volonté d'où sortirait une constitution plus centralisatrice que son prototype américain. Le centralisme, qui ne le voit cheminer sourdement au lendemain de 67, à Ottawa et en chaque province hors du Québec, dans ce que nous avons appelé l'offensive de l'unitarisme, tendance à tout uniformiser, institutions juridiques, lois, langues, cultures. L'esprit centraliste, et voilà pour n'en pas diminuer le péri, qui ne sait qu'à l'heure actuelle, ce microbe politique flotte un peu partout dans l'air. André Siegfried note le phénomène dans l'âme des peuples. La guerre, devenue totale, a mis entre les mains des gouvernements une puissance telle, non seulement politico-militaire, mais économique, sociale, technique, que des intérêts privés incapables de se défendre sont de plus en plus absorbés dans la collectivité. Et que personne ne s'y trompe, c'est encore une observation de Siegfried. L'État ne se défera guère des armes acquises par lui à la faveur de circonstances exceptionnelles. D'ailleurs, soit fatigue, paresse ou carence, les masses ne demandent pas mieux que de déléguer au gouvernement fort le fardeau d'une vie collective trop compliquée et trop évoluée. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans la République américaine, ce parangon des libres démocraties. À la faveur de la Cour suprême, tribunal dépendant de l'exécutif de Washington, la centralisation a progressé presque à pas de géant sous le président Roosevelt. À peu près tout le commerce, même pratiqué à l'intérieur d'un seul État, les relations entre patrons et employés, les syndicats, les heures de travail, les salaires et le reste, en un mot, un large secteur de la vie économique et de la vie sociale, ressorti depuis quelques années à l'État central américain. Engagé dans l'espace de 30 ans, en deux guerres ruineuses, puisque sans compensation ni profit, le Canada, on le pense bien, ne dérogerait pas aux tendances universelles. En 1937, épais scrupules, il sembla qu'il voulut authentiquer une politique déjà en marche. Et c'est alors qu'il organisait la commission dite Roel-Sirois. Le rapport des commissaires, publié en 1940, fournit à point à Ottawa une justification de son centralisme. La théorie, tactique à suivre, tout s'y trouve, esquissé, défini. Capacité exclusive du gouvernement d'Ottawa de pourvoir à l'urgence des besoins sociaux du pays. Capacité qui procède des pouvoirs fiscaux illimités et de pouvoirs monétaires à peine moindres. Par voie de conséquence, droit justifiable à la perception des impôts majeurs de la présente époque. Impôts sur le revenu personnel, impôts sur les corporations et les droits successoraux. En retour, prise au compte d'Ottawa des dettes de province et versement aux États provinciaux de subsides annuels, non plus basés sur la population comme auparavant, mais sur le revenu national. Pour n'être pas en reste, et pour le cas de province récalcitrante à Mahaté, les commissaires n'oublient point de recommander à Ottawa la tactique de la division. Il pourrait arriver qu'une ou deux provinces soient disposées à l'encontre des autres à déléguer leurs droits au Dominion. Et cette politique se flatte naturellement de ne point attenter aussi peu que rien à l'essence d'un régime fédératif véritable, Elle seule, en tout cas, peut le mieux assurer l'unité nationale. Ainsi a parlé l'oracle de 1940. Une grande bataille constitutionnelle va donc s'engager autour des articles 91 et 92 de la Constitution canadienne. De qui relèvent les pouvoirs législatifs résiduels? D'Ottawa, des États provinciaux, à qui appartiennent les impôts directs. Indéniablement, les provinces occupent une forte position juridique. D'importantes décisions du Conseil privé d'Angleterre, exprimées par deux juges en particulier, Lord Watson et Lord Haldane, décisions acceptées à peu d'exceptions près par les tribunaux canadiens, ont grandement fortifié les pouvoirs provinciaux. Un centralisateur comme F.R. Scott se voit contraint de l'admettre dans Canada Today. On peut affirmer aujourd'hui que les pouvoirs résiduels au Canada appartiennent aux provinces, excepté dans un cas de péril national qui dépasserait toutes les calamités que nous avons éprouvées depuis le début de la crise mondiale en 1929. Favorisé au surplus par la guerre de 1939. Le gouvernement d'Ottawa n'emmène qu'à plus vive allure sa politique d'empiètement. Ses tactiques sont bien connues. Il procède par sondage, par étapes. Il agite devant les masses la fascination de l'argent, de l'assistance ou de la sécurité sociale, allocation familiale, pension de vieillesse. De sa seule autorité, sans consulter les provinces, il tente de faire amender par le Parlement britannique la constitution du pays. En ces dernières années, osant un pas de plus, il met sur pied la commission Massé-Lévesque, reprise sur un plan supérieur de la commission Rahel-Sirois. Au nom de l'avancement des arts, lettres et sciences au Canada, Ottawa franchit un domaine sacré, celui de l'enseignement et l'éducation. Il vote même des subsides aux universités, se fournissant ainsi des raisons ou prétextes de ne pas déloger des champs de l'impôt où il s'est installé. Le péril de cette nouvelle offensive ne saurait être surfait. Au Parlement fédéral, les trois grands partis, le libéral, le conservateur, le CCF, adhèrent ouvertement, quoiqu'avec quelques variantes, à la doctrine centraliste. Les provinces, du moins les principales, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Canadienne, ont d'abord opposé d'énergiques résistances aux prétentions de la commission Rahel-Sirois. Les unes ont reproché au gouvernement d'Ottawa de sortir de son rôle. L'enfant et non le père des provinces, lui ont-elles rappelé. Le gouvernement de Québec a même récusé l'autorité de la commission. Puis, d'année en année, presque toutes, sauf le Québec et l'Ontario, ont molli devant la tactique de la division. Les provinces des prairies, sans tradition politique bien établie, troquent facilement leur souveraineté contre des subventions. Le Québec même perd quelque peu de sa fière intransigeance. Jusqu'à la guerre, les deux partis politiques présentaient le même front pour la défense de l'autonomie provinciale. En ces derniers temps, l'on a pu reprocher au Parti libéral ses imprudences, sa mollesse, qui l'ont fait abandonner à la juridiction d'Ottawa une tranche entière de la législation sociale. L'on tient rigueur à l'Union nationale de son opposition plus verbale que concrète. Il semble bien du reste que devant l'offensive contre l'enseignement, trop d'autorités sociales ne savent plus retrouver leur ancienne vigilance. Ainsi va la révolution, car il s'agit bien, toute phrase et toute feinte écartée, d'un retournement de la constitution du pays et d'une menace à l'existence de la Confédération. Laissons de côté, si l'on veut, les provinces de l'Ouest de formation cosmopolite et récente. Les autres incarnent des particularismes trop vigoureux pour subir longtemps, à ce qu'il semble bien, la dictature d'Ottawa. Ces provinces accepteront-elles en 1960 l'État unitaire qu'elles ont repoussé en 1867? Une parmi celles-ci, d'un particularisme exceptionnel et plus ancien, sait quels enjeux suprêmes sont engagés dans l'aventure. Pendant 100 ans, elle a combattu pour conquérir le droit de se gouverner soi-même. Pour l'État québécois, le triomphe du centralisme ne signifierait point seulement la perte de droits politiques et une diminution de prestige, une culture, une civilisation originelle dont l'État et le cadre protecteur sera mis en danger. Un pays d'esprit français et catholique renoncerait à ses propres institutions politiques pour passer sous la tutelle d'un État gouverné par une majorité anglo-protestante dont il sait par longue expérience ce qu'il peut attendre. Encore cette fois, la partie serait-elle définitivement perdue? Qu'elle soit mal engagée, impossible de le nier, chargée de lourdes dettes de guerre, d'être encore alourdie par les préparatifs d'une guerre préventive, prise à fond dans une politique de sécurité sociale qui lui attache une appréciable clientèle électorale et qui accroît son prestige, le gouvernement d'Ottawa renoncera-t-il jamais de bon gré aux impôts ravis aux provinces? Et s'il ne s'y résigne, quel recours reste possible? Un appel des États provinciaux à la Cour suprême du Canada, organisme juridique du gouvernement central, deviendrait aussi illusoire qu'un appel des États américains à la Cour suprême de Washington. Mais alors, contre l'État central, sorti de la légalité, que peut bien oser l'État provincial, menacé d'étouffement, quoique en plein état de légitime défense? On aperçoit quelle dangereuse perspective ouvre l'avenir. Pourtant, tout ressort n'est pas rompu dans la résistance québécoise. Même en ces derniers 20 ans, l'on peut relever quelques réactions nationalistes assez vives. En 1942, le gouvernement de Mackenzie King a souhaité se faire délier par plébiscite de ses promesses anticonscriptionnistes. Avec un minimum de ressources, la Ligue de la Défense du Canada entreprit de faire front contre la toute-puissante coalition des partis d'Ottawa. D'un bout à l'autre du Canada français, le peuple des familles nombreuses, exposé à payer plus cher l'impôt du sang, a su répondre en grande majorité le non que la Ligue attendait de lui. Quelques années auparavant, naissait l'Action libérale nationale de M. Paul Gouin, réaction intelligente et courageuse contre la politique déficiente de Québec. En septembre 1942, naît à son tour le Bloc populaire canadien, mouvement de réforme qui prétend agir à la fois sur le plan fédéral et le plan provincial. Le mouvement a pour chef M. Maxime Raymond, député de Bois-Noir aux communes, gentilhomme d'une dignité et d'une sincérité irréprochable. Le nouveau groupe a recueilli les meilleurs éléments de l'Action libérale nationale, de la jeune et de l'ancienne phalange nationaliste. M. Henri Bourassa sort de sa retraite pour lui donner son appui. Aidé des meilleurs économistes et sociologues, le Bloc populaire a pu se donner le programme politique le plus compréhensif et le plus organique jamais élaboré peut-être au Canada. Seules de malheureuses divisions intestines et ce qu'on pourrait appeler peut-être l'inintelligence des bien-pensants explique son insuccès. Voilà sans doute pour autoriser d'autres espoirs. M. André Laurendeau écrivait en 1941 dans la revue L'Action nationale, « Nous ne serons indépendants que dans la mesure où nous sauvegarderons nous-mêmes notre indépendance. Ce n'est point par la faute de l'ABN que l'assurance chômage est devenue la chose du fédéral. Ce n'est pas l'article 133 qui garantit notre avenir national. C'est la qualité et la quantité des Canadiens français, leur vitalité, leur capacité réelle de s'imposer. Les Canadiens français pourraient peut-être méditer cet aveu de M. F. Scott. On ne saurait poursuivre longtemps une politique nationale qui ferait contre elle l'unanimité du Québec. »
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Grou, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Un autre cours vous sera donné la semaine prochaine, le même jour, à la même heure et au même poste.